pour ceux qui n'étaient pas là, le sujet. Il me semble que c'est un sujet d'actualité, et pour beaucoup, pour qu'on puisse passer à un niveau supérieur, et c'est le thème de l'offense. Et vous savez que en grec, c'est scandalon, ça veut dire piège. Et donc l'offense est un piège qui est mis dans la, que l'ennemi met sur la route des chrétiens, et pas seulement des chrétiens, pour que les arrêter dans leur marche avec Dieu. Et cette offense, elle est cachée, elle est souvent pas très, souvent on s'en rend même pas compte, mais c'est notre réaction à l'offense, on avait dit, qui va déterminer notre avenir. Et on avait vu en particulier que c'était surtout ceux qui nous aiment et qui sont proches qui peuvent nous blesser d'autant plus. Et donc l'apôtre Paul nous dit en Timothée qu'il faut se dégager des pièges du diable qui s'est emparé de nous parfois. Et alors le remède, il propose d'acheter de l'or, rappelez-vous, c'est vite un rappel, acheter de l'or, achetez-moi de l'or éprouvé par le feu. Et donc l'offense, eh bien, c'est quelque chose qui vient nous ébranler, qui vient nous brûler, mais le but n'est pas la destruction, le but c'est de nous raffiner comme de l'or. Et notre réaction à l'offense, si on ne la nourrit pas, si on la laisse, et on verra un peu comment, eh bien, dans ce creuset, eh bien, Dieu fait de l'or. Tous ici, on a tous eu affaire et on aura tous affaire avec ce piège de l'offense. Ça fait partie de la marche du chrétien. Un jour ou l'autre, Dieu teste avec l'offense. Et c'est normal. Et c'est même normal que ça, on dit, mais c'est quand même terrible si ça vient du peuple de Dieu, tout ça. Je ne connais personne qui n'a dû faire face à l'offense, même des plus proches et de l'Église. Mais il y en a tellement qui restent enfermés dans cette offense. Et Proverbe 18, rappelez-vous, nous disait, verset 19, un frère offensé est pire qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. Donc on se durcit parce qu'on ne veut plus avoir mal, et on avait vu en particulier l'histoire de Joseph, et donc Joseph avec ses rêves, les rêves de Dieu, l'appel de Dieu, il se retrouve profondément offensé par ses frères, et ensuite par son maître Potiphar, et ensuite par ceux qui étaient dans la prison avec lui et qui l'ont oublié. Combien d'occasions d'être profondément offensé. Et pourtant Joseph, il a béni ses frères et il a reconnu que ce qu'ils avaient fait, eh bien, c'était la main de Dieu en fait. C'est incroyable de voir dans des pièges comme ça, dans des gens qui nous ont fait souffrir, des gens qui ont peut-être dit du mal de nous, qui nous ont mis dans des prisons. Quelle maturité ça demande de reconnaître la main même de Dieu. La main même de Dieu. Et on avait vu que si Joseph était resté dans une offense, Dieu l'aurait laissé en prison, rappelez-vous. Pourquoi ? Parce que sinon, les frères de Joseph, ce sont les 12 tribus d'Israël, les patriarches. Et la lignée de Jésus venait par Judas. Et donc, le plan de Dieu, le plan de la venue même du Messie, ne s'accomplissait pas. Il fallait qu'un Joseph ne prenne pas offense, sinon le plan de Dieu ne s'accomplissait pas. Les plans de Dieu pour nos vies peuvent avorter si on reste dans l'offense, et ça, donc, on l'avait bien souligné la dernière fois. On avait vu aussi qu'il n'y a aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun diable qui peut nous soustraire à la volonté de Dieu. Parfois, c'est simplement nous-mêmes avec nos offenses. Et les frères de Joseph, quand ils l'ont mis en prison, ils ont dit « Nous verrons bien ce que deviennent ses rêves. » Quelqu'un qui est offensé perd ses rêves. Perd ses rêves. Et quand on a perdu nos rêves, on a perdu la foi. Très vite, ça vient très vite après. Voyez, donc personne ne peut arrêter. Et si on reste offensé, on ne fera qu'accomplir les objectifs de l'ennemi. Abstenons-nous d'être offensés et continuons de fleurir. Donc ça, c'était la dernière fois. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on veut voir en particulier, là on a parlé de la blessure de frère avec Joseph, mais que dire de la blessure de gens encore plus proches, de la blessure de père. Et nous avons un exemple dans les Écritures, c'est David. David, vous savez, rappelez, le Samuel vient, prophétise sur lui alors qu'il était jeune enfant, et puis prophétise que, eh bien voilà, il sera roi. Et puis les circonstances ont l'air de s'ouvrir. Saül l'appelle dans le palais, pour jouer de la harpe. Ensuite, donc on voit que David, ensuite, il a vaincu Goliath. Il se marie avec la fille de Saül. Tout semble s'accomplir, c'est super. C'est comme Dieu avait dit, comme Dieu avait dit. Il vit dans le palais, lui le berger. C'est incroyable, la prophétie s'accomplit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? La jalousie monte chez Saül. Il se retrouve dehors, vivant dans les cavernes, dans les déserts, fuyant ceux qui veulent le tuer. Et quel est le sentiment qu'il aurait pu avoir là? Quelle offense! Et Saül, il l'appelle mon père. 1 Samuel 24, 12. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Il l'appelle père. En fait, David avait, le cri de David, c'était que Saül soit un père pour lui. Et Saül ne l'a pas été. Et son cri, ça a été, mais j'ai besoin de quelqu'un devant moi qui ne me détruise pas, mais qui m'encourage. J'ai besoin d'un père qui me soutienne et pas qui me juge. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Le plus proche, les attentes légitimes de Saül, de David. Et voyez, souvent les chefs comme Saül, ils peuvent avoir la tendance, et nous tous, hein, de voir le peuple de Dieu ou les gens comme un moyen simplement d'accomplir une vision. Nous sommes dans une année où nous travaillons sur la vision. Mais voyez, qu'est-ce qu'on fait avec une vision? Est-ce qu'on peut avoir la tentation d'utiliser les gens pour accomplir une vision? Les utiliser comme des moyens, comme des choses, comme des pions. Et ça, c'est quelque chose qui offense, qui est offensant. Et nous devons faire attention, aussi grande que sera la vision, faire attention les uns aux autres, aux gens. Et que la réussite de la vision ne justifie jamais le prix de vie blessée, de personnes brisées. Et la justice, la miséricorde, l'intégrité, l'amour ne doit pas être mis en compromis par rapport même au profit d'une réussite, d'une soi-disant réussite. Alors David, vous voyez, il s'est remis en question. Il a d'abord cherché à prouver son innocence. C'est toujours ce qu'on fait, hein. On est offensé, on dit mais quand même, je suis dans mon droit. Et puis alors, on veut prouver son innocence. Alors David a essayé de prouver son innocence et il a refusé de se venger. Et parfois, vous savez, alors la vengeance, c'est pas les armes, on n'est pas au temps de Saül, quoique parfois ça arrive, mais les armes qu'on utilise, c'est souvent la parole, la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Dieu nous rappelle en Proverbe 6, il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Et vous savez l'histoire, la preuve biblique qu'il n'y a jamais eu d'offense. David s'est jamais laissé offenser. La preuve biblique est celle-ci, c'est quand Saül est mort, il y a un homme qui vient et lui dit, ouais, il se vante, moi j'ai tué Saül. Il voulait faire plaisir à David. Et vous savez l'accueil qu'il a eu de David, un accueil plus que froid, puisque David a dit, comment n'as-tu pas craint d'étendre ta main pour faire périr le Messie de l'Éternel? Et David l'a fait exécuter. Et il a composé ensuite un chant, David, un chant funéraire, un chant en l'honneur de Saül. Alors qu'il aurait très bien pu dire, ah ben voilà, c'est normal, le jugement de Dieu est tombé hein, sur cet homme impie. Eh ben non, il a composé un chant. C'est incroyable cette histoire. Aucune offense dans le cœur de David, c'est pas étonnant que sa royauté ait été si loin. Et Dieu nous appelle tous à devenir rois et reines. Et Dieu teste les futurs rois et reines avec l'offense. Parce qu'il ne voulait pas que David bâtisse son royaume sur une offense. Il ne voulait pas que David commence son règne sur une blessure et sur une offense. Et ça, ce n'était pas possible. Pour bâtir le règne de Dieu, il ne se bâtit pas avec des cœurs offensés. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu nous aime pas quand on est offensé. Mais Dieu ne peut pas nous conduire à la maturité et à la royauté quand on garde ses offenses dans nos cœurs. Et non seulement David a composé un chant, mais il est allé plus loin encore. Il a voulu bénir la lignée de Saül, avec Méphibosheth en particulier. Donc il a béni, non seulement pas d'offense, mais il bénit ses ennemis et les descendants. L'offense, en fait, Qu'est-ce qu'elle fabrique? Alors, on a parlé de l'amertume, tout ça, mais ça fabrique une catégorie de personnes. Ça fabrique ce qu'on peut appeler les vagabonds spirituels. Les vagabonds. Et on va le voir avec les Écritures, mais on va le voir en particulier avec une histoire de Caïn. Prenons quelques exemples. Par exemple, Samuel, le prophète Samuel. Il a dû servir des gens iniques. Il a dû servir le prophète Élie, qui était vraiment, pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie, qui était vraiment un homme loin de Dieu, quoi, inique, quelque part. Avec ses fils aussi, qui étaient des vauriens, me dit la Bible. Et pourtant, Dieu, pour lever un prophète, il le met à servir des gens iniques. C'est incroyable, cette histoire. Il la met comme formation, tu vas servir et bénir ces gens-là, qui étaient des responsables dans le peuple de Dieu, mais des responsables iniques. C'est une drôle d'école, ça, quand même. Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans cette corruption, au milieu de cette corruption? La Bible me dit ce verset extraordinaire. Et le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. En fait, il servait l'Éternel. Derrière le service d'Élie, il servait Dieu. En fait, là, il y a une question. Qui c'est qu'on sert? Qui c'est qu'on sert? Si on sert des gens, on peut être déçu rapidement. Si on sert même une vision, on pourra être déçu. Mais si on sert Dieu, quels que soient les gens avec lesquels on travaille, on ne sera pas déçu. Et on veut servir l'Éternel, comme le jeune Samuel. Et souvent, beaucoup quittent, hein, que ce soit communauté, assemblée, offensée. On en a tous connu, peut-être qu'on l'a été nous-mêmes. Et il y a un frère qui disait, il y a une façon de quitter une église, c'est la seule façon biblique, vous sortirez avec joie, vous serez conduit en paix. Ésaïe 55, 12. Pas dans l'offense, pas dans l'offense. Et ça, c'est parfois malheureux, parce qu'après, on traîne, on dit des casseroles, et on n'arrive plus à se relever. Et ce qu'on a vécu comme problème avant, eh bien, on le revit après. En fait, c'est pas Dieu qui nous dit, c'est à toi de choisir ton assemblée. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui dit où on doit être. 1 Corinthiens 12, 18, Dieu a établi chacun des membres dans le corps comme il le veut, lui. Comme il le veut, lui. Donc, c'est lui qui établit. Et tout à l'heure, nos frères et nos sœurs qui ont rejoint cette église, on a pu parler avec eux, il est certain que c'est pas une démarche sentimentale. On teste bien, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que tu as été offensé ailleurs pour venir ici par réaction? Ou est-ce que c'est vraiment dans la paix? Et ça, c'est des choses importantes qui sont là. Si on est bien là où Dieu veut que nous soyons, qu'est-ce que va faire le diable? Il essaiera de nous offenser. C'est classique, ça. Tu es dans la terre que Dieu te donne, qu'est-ce que fait l'ennemi? Il va essayer de t'offenser. Et quand on est offensé, et quand on a l'habitude, au lieu de traiter l'offense, de partir, de quitter, de lâcher, eh bien, on n'arrive pas à fleurir. Dans Proverbe 26, 20, il est dit, « Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. » Donc, l'idée, c'est qu'on arrête de nourrir ce qui vient nourrir cette offense pour que nous soyons une belle plantation. Vous savez, on a souvent l'image dans les Écritures de la terre et des semences. Et la Bible dit, ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur, psaume 92, 14, fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Être planté, l'offense nous empêche d'être planté. L'offense fait qu'on ne veut pas être planté. Je dis, alors bien sûr, parce qu'on a peur de se planter. C'est-à-dire, on a peur d'avoir mal. On a eu mal une fois, deux fois, trois fois, maintenant on ne va pas nous la refaire. D'accord? L'offense fait qu'on s'est blindé et on ne veut pas être planté. Et quand on ne veut pas être planté, il n'y a pas de fruit. Et c'est vrai qu'être planté, ça demande un risque. Mais seuls ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu fleurissent dans les parvis du Seigneur. Imaginez un arbre qui a supporté la chaleur, la tempête, je pense aux arbres aussi du midi là. Et alors imaginez un jeune arbre parler, si on pouvait l'entendre, il pourrait dire « S'il vous plaît, mettez-moi là où il n'y a pas trop de chaleur. Hein. Mettez-moi là où il n'y a pas trop de vent. Mettez-moi là où il n'y a pas trop de tempête. Si le jardinier écoutait l'arbre, je peux vous dire, il lui ferait du mal. Il lui ferait du mal parce qu'il l'empêcherait l'arbre de développer quoi ? Ben, ses racines. Il l'empêcherait. Il l'empêcherait. Donc il dit, non, je t'ai planté là. L'adversité rencontrée par l'arbre, qu'est-ce que ça donne ? Ça devient toujours une source de stabilité. Donc l'offense n'est pas une arme de destruction massive, par exemple. Tout dépend de notre action. C'est souvent Dieu qui permet l'offense, comme pour David, comme pour Samuel, comme pour tous les hommes de Dieu, qui permet l'offense pour qu'on s'enracine et qu'on s'enracine là où Dieu nous veut. Ça fait partie de ces tempêtes qui veulent produire des racines. Il y a des pays où, par exemple, je sais que les oranges les plus sucrées, je pense par exemple à, il semblerait, moi j'ai vu ça à une région en Floride, où les hivers très très froids parfois, et bien les oranges sont d'autant plus sucrées que les hivers sont froids. C'est étonnant. Mais dans la nature, on voit des fruits qui ont besoin d'un solide hiver pour que ce soit des bons fruits. Donc là, le rapprochement se fait rapidement avec cette notion d'être planté. Et on comprend que l'ennemi utilise l'offense pour nous arracher parce qu'il a peur des fruits que ça peut donner. Chacun ici, il y a un potentiel de fruits, et il y en a déjà, mais il y a un potentiel de fruits extraordinaire. Il y a un potentiel de fruits extraordinaire. Parce qu'en nous, il y a le Christ. Et ce Christ, il n'y a rien qui arrête la croissance. Bibliquement, il n'y a rien qui arrête la croissance. Depuis le moment où on a connu Dieu, il n'y a rien qui peut arrêter cette croissance. Nous sommes programmés pour ressembler pleinement à Jésus. Qu'est-ce qui arrête la croissance ? La plupart du temps, c'est souvent l'offense. C'est souvent l'offense. Et qui fait que, du coup, on a peur de se planter, d'être planté. Et du coup, on n'a pas de racines. Et la Bible dit, on devient des gens d'un moment. La parole qui nous dit ceci, ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux, eh bien, sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. En fait, on pourrait traduire, ils ne supportent qu'un moment, pas plus. Et dès que vient la tribulation, la persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Il y a des versions anglaises, alors je n'ai pas regardé le texte original, mais occasion de chute, on voit occasion d'offense. Et en fait, nous savons que l'offense, le mot offense, c'est piège. Donc occasion de piège, on peut très bien confondre dans ce texte occasion de chute, l'offense, occasion de chute, occasion de piège. Donc vous voyez, chaque fois qu'on quitte l'endroit que Dieu a choisi pour nous, notre système radical, c'est-à-dire le système des racines, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Il commence à se rétrécir. Il se rétrécit. Et on a besoin de comprendre que l'offense fait que nos racines, petit à petit, elles pourrissent. Une fois que l'on quitte l'endroit que Dieu a choisi, donc le système radical se rétrécit. Et qu'est-ce qui se passe ? On ne devient plus radicaux. On n'est plus radicaux. C'est-à-dire on commence à tempérer. Et on commence à dire, des choses sont comme ça. La société, elle est comme ça. On est un peu de sel, un peu de lumière. Mais on va plus être radicaux dans les choix et dans la marche avec Dieu. Parce qu'on manque de racines, tout simplement. Alors, l'offrande de Caïn, rappelez-vous, Caïn, il a travaillé. L'offrande qu'il a donnée à Dieu est une offrande qui est le fruit du boulot, du travail. Ça lui a coûté le labeur. Il a fait beaucoup d'efforts dans son service, quelque part, pour Dieu. Et son offrande, elle symbolisait une adoration pour Dieu avec ses propres forces, ses propres capacités. Dieu avait clairement dit l'offrande qu'il voulait avoir, elle est basée sur le sacrifice. Mais Abel, il a fait une offrande avec son service, avec son travail, avec son effort. Et Abel, lui, a apporté une offrande d'obéissance. L'offrande d'obéissance, les premiers-nés du petit bétail, il n'a pas dû peiner comme Caïn pour travailler cette terre. Il n'a pas dû peiner comme Caïn pour produire. Il n'a pas dû peiner. Il a donné quelque chose qui lui tenait à cœur. Et les deux frères, ils avaient vu, ils avaient sûrement appris par leur papa Adam et leur mère Ève comment sacrifier à Dieu. Ils avaient sûrement entendu cette histoire que, se sentant nus, ils ont voulu se couvrir eux-mêmes. Et puis, c'est pas ça, on ne se couvre pas comme ça devant Dieu. Et il a fallu que Dieu lui-même les couvre et les recouvre en sacrifiant un animal. Donc, ils savaient. Mais Caïn apporter le fruit de son adoration comme il l'entendait lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est laissé offenser par Dieu. Regardez, relisez le texte de Genèse, il est vraiment offensé. Pourtant, Dieu l'avait prévenu, lui avait dit, attention, Caïn, le péché est à ta porte, hein, ne te soumets pas. Et puis Caïn s'est laissé offenser, profondément offensé. Quoi, mon frère? Et puis moi, tu ne reçois pas l'offrande, j'ai bossé pour toi, Seigneur. Et parfois, on entend ça, après tout ce que j'ai fait, etc. Hein, on entend ce genre de paroles parfois. Après tout ce que j'ai donné, c'est ça la reconnaissance, etc. Et ça, on le dit à Dieu, on le dit à d'autres. Et l'offense, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Caïn, il nous est dit dans Genèse 4, 11, « Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre, errant sur la terre. » Quand on n'est pas planté, on est errant. On est errant. Et du coup, il faut bien faire attention à... Je ne dis pas que toute errance vient de l'offense, mais beaucoup d'errance viennent de l'offense. On a été offensé, on a été meurtri. Et parfois, on comprendrait, c'est profondément injuste qu'on a vécu. Mais ça ne justifie pas le fait de rester offensé. Voyez. Alors, Proverbe 18:1, « Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir, il se déchaîne contre toute raison. » Et donc, on se recroqueville. On reste à l'écart et c'est tellement dommage. Et moi, je crois vraiment que Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Il nous montre que l'offense est un piège de l'ennemi et qu'il ne faut pas voir simplement les autres, la chair et le sang. Il faut voir derrière cela le piège de l'ennemi et combien le chemin que Dieu a pour nous est un chemin qui libère des offenses. Dieu ne nous a pas créés pour vivre indépendants. C'est vrai qu'on a beaucoup moins mal quand on vit seul, quelque part. Mais Dieu ne nous a pas appris à vivre seul, en communion, en communauté, les uns avec les autres. Et moi, je bénis le Seigneur pour la qualité de relation que nous vivons depuis des années. Je bénis le Seigneur pour cette qualité. C'est une grâce de Dieu. Mais si un jour on venait à s'offenser, imaginons, j'aimerais pas que ça arrive, mais si ça arrivait, rappelons-nous que c'est toujours pour que l'ennemi est toujours là pour qu'on soit déraciné, qu'on ne porte pas de fruits. Il a peur des fruits que ça peut donner. Les deux jours, la semaine dernière, j'étais au rassemblement du CNEF à Paris. Et vous aviez donc tous ces responsables évangéliques, pasteurs, responsables de fédération, responsables d'œuvres. On était de tous les courants. On a prié ensemble, loué ensemble. C'était un temps d'unité vraiment fort, vraiment fort. Ce CNEF, Conseil National des Évangéliques de France, je rappelais à quelques-uns, est né en fait dans la vision il y a 10 ans. Quand tout d'un coup, un responsable d'une fédération non charismatique s'est levé et a demandé pardon au responsable d'une fédération charismatique en disant « Pardon, on vous a jugé, on vous a jugé. » Et il y a une conviction de péché dans ce petit groupe. Et ils ont commencé à rêver et à se dire « Mais ça serait quand même bien que dans ce pays de France, on puisse avoir un réseau qui englobe tout le monde, frères et sœurs, dans une même communion d'esprit. » Et c'est sur cette racine du pardon des offenses, qu'est né le CNEF. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très prometteur là. Alors il y a eu quelques députés qui étaient là, il y avait vraiment du gratin comme on dit, il y avait le président de la fédération protestante, et j'ai senti vraiment personnellement quelque chose vraiment du Saint-Esprit, un travail de fond qui est là et qui est très très prometteur. Donc voyez, Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Et le ensemble, c'est ça demande de savoir gérer les offenses. Sinon, on est incapable de vivre ensemble. Un couple ne peut pas vivre ensemble si ce n'est pas gérer l'offense. Quel est le couple ici? Si on posait des questions à nos couples de 45 ans de mariage, il y a eu des occasions d'offenser le conjoint. Et combien? Et pourquoi ils sont encore là? Parce qu'ils n'ont pas resté sur l'offense. On n'est pas resté sur l'offense. Hein? Vous savez qu'au niveau statistique, un couple qui a divorcé et qui n'a pas réglé l'offense, quand il se remarie, au niveau des statistiques, il a bien plus de chances, enfin de malchance, de divorcer encore. Et c'est exponentiel. Ils ont fait des statistiques, ils ont bien montré que celui qui ne règle pas l'offense, il la reproduit. Et c'est un cercle comme ça, sans fin, sans fin. Et Dieu est venu pour briser ce cercle de l'offense. Et en fait, être offensé, c'est retenir le péché des autres. C'est ça l'offense, fondamentalement. Je retiens ce qu'il m'a fait. Je le retiens. Et donc, en fait, non seulement je suis prisonnier moi-même, mais j'emprisonne ceux que j'ai offensés, ceux qui m'ont offensé. Je les emprisonne dans mon jugement. Et parfois, on veut qu'ils payent une dette. Et la dette, souvent, qu'on veut qu'ils payent. On est prêt à se réconcilier, d'accord, mais il faut qu'ils payent quand même. Et ce qu'on leur demande de payer, c'est souvent au moins qu'ils reconnaissent. C'est ça, la dette, souvent. Au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu tort, quoi. Alors là, on est d'accord pour eux. Mais s'ils ne reconnaissent pas, quand même, eh bien non. L'offense se lâche. Il n'y a aucune dette qu'on demande. Il n'y a aucun prix qu'on demande pour lâcher l'offense. Et donc, Hébreux 11, versets 35 à 39, regardez ces hommes et ces femmes de la foi qui auraient pu être offensés par Dieu, vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce que ils ont, je lis, hein, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des offenses, des moqueries, des fouets, le chêne, la prison, furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et autres de la terre, et entre de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous vous rendez compte ? Ils ont vécu une vie de foi en Dieu sans avoir obtenu ce qui était promis. C'est incroyable cette histoire. Ils ont tenu dans la foi. Donc, dans la foi, c'est pas seulement marcher dans la foi parce que je vois Dieu agir et obtenir ce qu'il a promis. La marche dans la foi, c'est aussi quand on n'obtient pas ce qui a été promis et qu'on continue à marcher avec Dieu. Et ils sont dans les héros de la foi, ces gens-là. Leur témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Peut-être que ça aurait été bizarre comme témoignage. Ben moi, j'ai été maltraité, j'étais persécuté. Alors on dit, mais c'est quelqu'un récemment qui voulait donner son témoignage ici, un samedi soir, me disait, tu sais, moi, je témoignage, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas vu de miracle, je n'ai pas vu de réconciliation, de choses extraordinaires. Et je dis, mais justement, tu ne vois pas et tu marches et tu fais confiance à Dieu. Ça, c'est un témoignage. Et donc, on a besoin de comprendre que la marche dans la foi, c'est parfois ne pas encore obtenir ou ne pas obtenir ce qui était promis. Et ces gens-là sont dans les héros de la foi. Ils avaient décidé, ces gens-là, que tout ce qu'ils voulaient, c'était Dieu, quel que soit le coup. Quel que soit le coup. Il leur était impossible d'être offensés. Impossible à ces gens-là. Tellement morts à eux-mêmes, impossible d'être offensés pour ces héros de la foi de Hébreux 11. Vous voyez, nous sommes enracinés et fondés quand nous portons cet amour, cette confiance intense en Dieu. Dieu, une bonne image de Dieu, il tient notre vie dans sa main. Il ne fait jamais quelque chose pour nous blesser ou nous détruire. Dieu ne fait jamais quelque chose pour nous blesser ou nous détruire. Ça ne veut pas dire que parfois, il y a des façons de faire de Dieu qui heurtent notre chair, quoi, qui heurtent nos conceptions. Mais il ne fait jamais ces choses pour nous offenser. Soyons sûrs de ça, jamais. Et vous savez, quand on vit, et quand certains dans l'Église ont vécu parfois un deuil d'un enfant, on peut dire, mais on est révolté contre Dieu un moment. Et quelque part, c'est normal un moment. Mais il y a un moment, il faut lâcher l'offense. Et c'est ce qu'ont fait ces frères et sœurs s'ils sont encore là aujourd'hui. Alors Jésus, vous allez me dire, mais Jésus lui-même, il a offensé des gens. Bien sûr qu'il a offensé des gens. Il n'a pas arrangé la vérité pour que les gens ne soient pas offensés. Il a offensé les pharisiens. Alors, les pharisiens, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hein, Matthieu 15. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, etc. Et les disciples lui ont dit, mais écoute, Seigneur, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par ce qu'ils ont entendu ? Scandalisés ! Et Jésus dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Et on voit une chose intéressante ici, on voit que Dieu utilise l'offense pour déraciner ceux qui ne sont pas plantés, comme le Père voudrait, pour déraciner les pharisiens quelque part, ceux que Dieu n'a pas plantés dans la maison. Donc c'est intéressant de voir que là, il les a scandalisés, et Jésus dit, ceux qui n'ont pas été plantés eh bien, ils seront déracinés. Et il utilise le scandale pour ça. Il a offensé les gens de sa patrie à Nazareth. Ils ont dit, mais c'est pas le fils du charpentier, celui-là. Mais ils étaient offensés par son discours. Il a offensé les gens de sa famille. Et vous savez, parfois, et là je parle parfois à quelques-uns d'entre vous, parfois marcher avec Dieu, on ne veut pas offenser nos parents. Parce qu'on dit, je peux quand même pas les offenser et obéir au Seigneur, etc. Il y a un moment où le témoignage offense nos gens les plus chers. Et c'est, on n'est pas là parce qu'on veut offenser les gens. Mais rien que marcher avec Dieu et choisir Dieu, parfois ça offense les gens. Et là il faut savoir marcher et continuer sa marche. Et même si des gens sont offensés. Et je sais, on a vraiment, je me rappelle Manuela, c'était un témoignage Manuela, hein, quand son père qui venait d'Espagne, la guerre d'Espagne, un athée, hein, il lui faisait répéter, petite fille, tu n'as pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, etc. Et quand elle est venue, quand je suis venu déjà demander en mariage, c'était pas facile, c'était, l'image de Dieu qu'ils avaient n'était pas l'image biblique, mais du coup ils ont eu peur et ils m'ont dit, pas de mariage, terminé, tu t'en vas. Et elles, ils lui ont dit, tu choisis maintenant, ou tu restes à la maison, mais tu enlèves ta Bible, ou si tu veux garder ta Bible, tu t'en vas. Elle a dû quitter sa maison. Elle aimait ses parents. Et elle aimait ses parents, mais il y a un moment où Dieu dit, maintenant, c'est comme ça, et c'est douloureux. Et gloire à Dieu, parce qu'il y a une réconciliation totale qui s'est faite, non seulement totale, mais ils se sont donnés au Seigneur, l'un et l'autre. D'ailleurs, le papa s'est donné à Josué, rappelez-vous, quand il y avait un évangéliste allemand, traduit en français, il prêche l'évangile, tout d'un coup, il se met à parler en espagnol. Le traducteur, paumé, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y en avait quelques deux dans la salle qui connaissaient l'espagnol, Manuela et son papa. Et quand il a fait l'appel, le papa a couru devant, c'était dans l'ancienne salle là. Et il était touché juste avant qu'il tombe un peu dans du Alzheimer et tout ça. Et même dans le Alzheimer, il disait, à Guebwiller, il y a eu un truc, il y a un curé, son sacristain. C'est... Et il nous a sorti ça longtemps après. Mais pour lui, c'était waouh, il s'est passé un truc quoi. Il se rappelait encore. Le curé et le sacristain, si le pasteur, ils avaient ça. Donc, Jésus a offensé sa famille. Jésus a offensé ses propres disciples. Hein, Jean 6, parfois, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, mais qui peut l'écouter ? Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent pas avec lui. Et il a offensé ses proches. Que dire de Marie ? Et à Béthanie, lorsque Marthe et Marie, si tu avais été ici, Seigneur, mon frère, il ne serait pas mort. Ça fait deux jours, plus de deux jours qu'on t'a dit qu'il était à la mort. Et tu n'es pas venu. Tu as continué de prêcher, là, d'enseigner les gens. Et nous, tes amis proches, tu n'as pas pris le temps pour ça. Et maintenant, regarde, l'offense. L'offense. Et il a fallu toute la puissance de la résurrection et tout ça pour que je suis sûr que dans leur cœur elles ont dû se sentir très repentantes quoi, parce que oh là là, elles se sont permis quelque part de juger le Seigneur. Elles avaient fondé des attentes sur lui et il répondait pas à leurs attentes à lui. Et parfois avec Dieu on met des attentes sur lui. Il faudrait que tu fasses comme ça. Si tu fais comme ça, pas comme ça, moi j'arrête de te suivre. Moi, si tu ne me donnes pas un mari ou si tu ne me donnes pas une femme là, dans les deux ans, moi j'arrête, Seigneur. Hein. Si tu ne guéris pas mon dos là tout de suite, moi j'arrête. Hein. Combien il y en a ici qui seraient encore là s'ils avaient dit ça au Seigneur, hein. Alors, on lui met des trucs à faire et voilà. Et puis on dit, bon, si tu ne fais pas ça, moi j'arrête. Voilà. Et ça, c'est incroyable ça. Voilà. Donc on est facilement offensé quand même. Hein. Et Jésus a pu offenser Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pourtant qui savait que Jésus était le Messie, c'était... Il l'avait discerné déjà depuis longtemps. Et puis, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, il fait demander à quelqu'un, il fait demander, mais demander à Jésus s'il est vraiment le Messie, quoi. Et Jésus cite Ésaïe en terminant, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il doutait de la messianité du Christ. C'est incroyable. Et Dieu dit, « Attention, je ne veux pas être une occasion de chute pour toi, Jean-Baptiste. » Quand on vit pour la volonté de Dieu... Eh bien, il y a des moments où on ne satisfait pas la volonté des hommes. Et ça, c'est vraiment un passage difficile. Mais quand même, j'aimerais souligner une chose chez Jésus. Jésus a offensé certaines personnes, même pas mal, parce qu'il obéissait à son Père. Mais jamais il a provoqué l'offense pour faire valoir ses droits. Jamais il n'a provoqué l'offense pour se servir lui-même. Voyez, jamais. Il a offensé, oui, mais jamais pour ses droits. Jamais pour se défendre lui-même. Jamais pour se servir lui-même. Mais c'est toujours dans la dynamique de servir son père. Alors, voyez, on sait bien que si on n'arrive pas à pardonner, c'est qu'on a vraiment oublié combien la dette que Dieu a pardonnée est grande. Combien la dette que nous avons envers Dieu, et il l'a pardonné. Combien cette dette est grande. Donc la manière, la Bible le dit très clairement, en Matthieu 6 en particulier, la manière dont nous pardonnons les offenses et dont nous libérons les gens, c'est exactement cette mesure que Dieu va prendre pour nous pardonner nous-mêmes. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. On peut dire, mais quand même l'amour de Dieu est quand même extrêmement grand. Il va bien tout pardonner. Oui, sauf quand on ne pardonne pas. C'est incroyable. Méditez là-dessus. Ce Dieu qui est mort, qui a pris l'offense, nos offenses, nos péchés, il les a pris sur lui. Attention, c'est facile de dire, il pardonne tout. Il pardonne tout dans la mesure où tu pardonnes tout. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment une parole qu'il faut. Il prend cette mesure. C'est pareil avec le jugement. Il prend ton jugement sur les autres, tac, et il te l'applique à toi. Il prend ta façon de pardonner les offenses, tac, et il l'applique à toi. C'est des lois spirituelles qui sont vraiment gravées. Dans Matthieu 18, nous avons la parabole de ce serviteur impitoyable, vous savez, qui avait une dette, et puis son maître lui demande sa dette, et puis il n'avait pas de quoi. Alors il implore, laisse-moi du temps, et le maître lui dit, bon, ben, je te la remets ta dette. Et puis il va chez d'autres qui ont une dette envers lui, et il les fait payer, il les met en prison. Impitoyable. Et alors, dans Matthieu 18, il est dit, verset 34-35, et son maître, quand ce serviteur impitoyable revient, son maître irrité, il a entendu le manque de compassion de celui à qui il a remis la dette. Il a entendu ce qu'il a fait, cet homme, ce manque de pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez ça. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon père, un Dieu d'amour, serait-il capable de me livrer au bourreau? La Bible dit oui, dans un cas. Dans le cas où tu remets pas la dette et les offenses de tes frères et sœurs. Dans le cas où tu gardes l'offense, tu es livré au bourreau. C'est ce que Dieu me dit, c'est ce que la parole me dit. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc ces versets soulignent trois points, Matthieu 18. Hein. Le serviteur impitoyable est livré au bourreau. Deuxièmement, il doit payer sa dette d'origine. Troisièmement, Dieu le Père fera la même chose à tout croyant. Il s'adresse aux croyants ici, hein, à tout croyant qui ne pardonne pas l'offense d'un frère. Livré au bourreau, ça veut dire livré aux esprits, c'est-à-dire livré aux esprits méchants. Il y a des situations parfois dans nos vies qui sont, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens comme roué de coups, physiquement. On peut être parfois, je ne dis pas que toute maladie est là, loin de moi, hein, attention, mais il y a parfois des situations de maladie physique qui sont dues simplement au manque de pardon. Et on se sent roué, et on se sent jugé, et on se sent condamné, et on en veut à tout le monde. Et puis on se tient, et on a mal, et on se plaint. Et Dieu dit, c'est pas étonnant, tu es dans cette phase de ta vie où je t'ai livré au bourreau, jusqu'à ce que tu pardonnes. C'est vraiment, vraiment des choses sérieuses qui sont là. Donc voyez, il y a des médecins, hein, beaucoup de médecins disent, il y a beaucoup de maladies, c'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Il y a beaucoup de cancers, manque de pardon. Hein. Moi, je me rappelle, ma propre mère, elle a eu un cancer du sein, et avec sa belle-sœur, c'était très difficile, très difficile. Elle était une belle-sœur méchante, quoi. Et elle a souvent pris offense. Elle, vraiment, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais ce que je sais, c'est que vraiment, son cœur a été offensé, quoi. Et un cœur offensé ouvre la porte à beaucoup de choses. Alors vraiment, ça ne vaut pas le coup de rester. On croit qu'on y gagne. On croit qu'avec notre petite offense, tout ça, on va la protéger, on va la nourrir. Mais on perd tout. Donc il faut arrêter avec ça. On perd tout. Et la parole de Dieu nous invite à tu veux sortir des bourreaux. Alors parfois, on va chasser au nom de Jésus, voyez. Chasse au nom de Jésus, c'est puissance mauvaise, tout ça. Tu pourras chasser tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Parce que Dieu dit pardonne. Et les bourreaux, ils vont s'en aller. Pardonne. C'est comme Jésus sur la barque avec la tempête. Il avait une telle paix en Jésus que la tempête s'est arrêtée. Il lui dit, tu t'arrêtes. C'est la paix du Christ lui-même qui arrête les éléments déchaînés. C'est pas seulement le bout des lèvres qui arrête les démons. C'est le caractère du Christ en nous qui arrête les démons. Avec le fruit des lèvres. Mais pas les lèvres toutes seules. Donc voyez, nous avons ici le serviteur impitoyable. Ensuite, il doit payer sa dette d'origine. Et vous savez, la dette d'origine, c'est impossible à la payer. C'est impossible. Au niveau de, si on faisait une conversion, il semblerait, j'ai vu ça quelque part, 375 tonnes d'or. C'était la dette. 375 tonnes d'or. Mes amis, qui c'est qui a ça? Alors, celui qui a ça, qui donne sa dîme tout de suite. Amen. Mais 375 d'hommes, c'est pas possible. Donc, Dieu veut montrer que c'est pas possible que tu payes ta dette. C'est impossible. Donc, demande-la pas aux autres. Alors, le piège de la vengeance. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Donc il n'est pas juste que nous nous vengions. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on refuse de pardonner. Quand on refuse de pardonner, c'est une façon de se venger. La dette qu'on veut que les autres nous payent, c'est qu'ils reconnaissent enfin qu'ils ont eu tort. Mince alors, oui, ça c'est le problème. Alors, nos cœurs sont un peu comme une terre. Et une terre qui est blessée, offensée, elle ne peut pas recevoir la parole. La parole ne va pas rester dedans. Elle ne va pas rester. La semence de la parole, elle doit prendre racine dans des cœurs qui sont des cœurs travaillés par l'amour, la joie, la paix, etc., tous les fruits de l'esprit. L'amertume, dit Frangipane, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il dit, l'amertume, une définition de l'amertume, c'est une vengeance non assouvie. Une vengeance non assouvie. C'est-à-dire, j'ai envie de me venger, mais je ne le fais pas, quoi, parce qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai envie, quoi. Et ça, c'est l'amertume. L'amertume, vengeance non assouvie, hein. Et donc, recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, et la sanctification sans laquelle on ne verra pas, nul ne verra le Seigneur. Et vous savez, là, avec une offense, on peut continuer d'exercer les dons spirituels. On peut continuer de prier pour les malades et on voit des guérisons. On peut continuer de vivre dans une certaine onction. Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais il y a une chose qui s'arrête, c'est les fruits. C'est les fruits. L'amertume ne peut pas produire des fruits. Ces fruits de l'amour, de la paix, de la joie. Ça ne peut pas. Donc voyez, et je termine par l'histoire que vous connaissez, mais on va la voir un peu plus en détail. Un roi qui a perdu sa royauté, qui a perdu son appel. Dans la Bible, il y en a eu un. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, mais et c'est Absalom. Après la mort de Saül, David est monté sur le trône. Il a affermi la nation, il a bénéficié vraiment des succès militaires, financiers. Il a tenu le trône avec fermeté, il a épousé plusieurs épouses qui ont donné beaucoup d'enfants. Et parmi ses enfants, il y a eu Amnon, fils aîné, et Absalom. Hein, Absalom, le troisième en fait. Amnon, donc fils de David, il a commis une offense vraiment terrible envers sa demi-sœur Tamar. Connaissez l'histoire. Tamar, c'était la sœur d'Absalom. Et il l'a trouvée belle, désirable. Il a fait semblant d'être malade. Il demande à son père David de l'envoyer vers Tamar, de lui envoyer Tamar pour qu'elle puisse s'occuper de lui, lui donner à manger. Elle va le faire, donc elle le fait sous obéissance de David. Donc Amnon fait sortir les serviteurs et viole sa demi-sœur Tamar. Et donc, non seulement il la viole, mais après il la prend en aversion. Il la jette, la chasse de sa vue. Il a déshonoré une princesse de sang royal. Il a déshonoré une vierge. Il a couvert de honte. Elle ne pourrait plus se marier. Toute sa vie était bouffée, finie. Et Absalom, imagine le frère Absalom. Imaginez son état. Sa sœur violée. Non seulement sa sœur violée, mais son père qui ne fait rien. Imaginez l'offense. L'offense qui commence. Qu'on comprend tous. Hein. Alors qu'il a ramené sa sœur chez lui. Il s'est occupé d'elle. Mais il a haï dans son cœur Amnon pour avoir souillé Tamar. Et Absalom s'attendait à ce que David fasse quelque chose, quoi. Il s'attendait à ce que David exerce une justice. Alors David, il s'est mis en colère, mais c'est tout. Et l'absence de justice a ravagé le cœur d'Absalom. Le sentiment d'injustice, l'offense terrible a ravagé son cœur d'Absalom. Et il était en train de perdre l'appel de Dieu sur sa vie, à ce moment-là. Et pourtant, qui sait qui ne réagirait pas comme lui ? Incroyable, hein ? Et alors, c'était injuste, profondément injuste. Elle était belle, estimée du peuple, et maintenant, elle vivait recluse, impossibilité de se marier. C'était injuste. Donc, ça l'a travaillé. La haine a grandi dans son cœur. Jour après jour, il voyait sa sœur affligée. Et l'avoir dans sa propre maison, dans cet état, tous les jours, la haine est devenue traître. L'offense, il a été nourri, toujours plus. Et il a haï le méchant Amnon. Au bout de 2 ans, sa haine fait naître un plan, assassiner Amnon. Et il l'a fait. Il a dit, je vais venger ma sœur, puisque celui qui a l'autorité ne fait rien. Et donc, c'est devenu un meurtrier. Il a été empoisonné par l'amertume. Il a critiqué les faiblesses de son père. Et ça, c'est un travail. L'amertume donne du discernement, mes amis. C'est incroyable. L'amertume donne un grand discernement. Mais un discernement tordu. Un discernement sur tout ce qui ne va pas. Et on ne voit plus comme Dieu voit. L'amertume donne un discernement. Attention. Et donc il a vu son père, manque de fermeté, manque de justice, préférence au niveau des frères. Il a vu tous les défauts de David. Et il en avait, David. Et pourtant la Bible dit David était selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être selon le cœur de Dieu avec beaucoup de défauts, mes amis. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais Absalom, donc, il n'a rien dit, vous voyez. Il a caché l'offense. Il a dissimulé. Et puis on sait ensuite qu'il a commencé à avoir un esprit critique envers son père. Tous les gens qui venaient à Jérusalem, ils disaient, moi si j'étais élu roi, eh ben, tout ça, ce que tu vivrais, ben, tu ne le vivrais pas. Tu serais beaucoup plus heureux que ça, parce que moi je serais plus juste que mon père. Parce que regarde ce qu'il a fait mon père, ça. Et puis les gens, ouais, c'est vrai. Et hop, qu'est-ce qu'on fait ? On veut chasser David de la royauté. Et David a quitté le trône comme un paria à cause d'Absalom qui est en train de monter. Un royaume bâti sur la haine et sur le manque de pardon. Ça veut dire qu'il y a des royaumes qui peuvent se bâtir comme ça jusqu'à une certaine mesure. Hein. Et puis, ensuite, on sait la fin. Il a été tué. Il est mort, Absalom. En fait, qu'est-ce qu'il a fait mourir ? C'est pas une épée, vraiment. C'est pas ce qu'il a fait mourir, c'est son offense qui a commencé quand sa demi-sœur a été violée et qu'il n'a pas pardonné. Donc, voyez, il a perdu la royauté. Il était l'héritier du trône. La Bible dit ici, nous sommes tous des héritiers. Nous sommes tous héritiers avec Jésus. Tous des héritiers. Mais le problème, est-ce qu'une offense va nous arrêter ? Ou est-ce qu'on va régler ce problème de l'offense ? Alors simplement, je termine, reconnaître là où on est blessé. Reconnaître, c'est déjà beaucoup ça. Et parfois, franchement, parfois on ne s'en rend pas compte. Franchement, hein. Moi j'ai vécu parfois des offenses, je peux vous dire vraiment de façon tout à fait sincère, je ne m'en suis pas rendu compte. Vraiment. Il a fallu, Dieu touche le cœur pour dire là, il y a une offense. Et alors après, il faut le reconnaître. Parfois on se dit, mais je suis quand même mûr quand même dans le Seigneur, je ne vais pas me laisser offenser. Ben, je dis, il n'y a pas d'âge pour se laisser offenser, il n'y a pas de maturité, à quelle que soit la maturité, on a affaire avec ça, de façon même parfois régulière. Alors, Ésaïe 58 dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. » Et parfois, le jeûne peut disposer le cœur, vraiment, à reconnaître l'offense et à libérer le pardon. Parfois, on n'y arrive pas, on dit, « J'ai un cœur trop dur. » Ramollir le cœur, le jeûne peut nous aider à ça. Ensuite, pardonner. Pardonner, libérer la personne, parfois se pardonner soi-même. Hein. Ensuite, se repentir de ses réactions, ses contre-réactions. Parce qu'on a bâti des réactions, on a bâti des murs de protection. Et tout ça, Dieu dit, voilà, eh ben, demande pardon pour tout ça. Et Dieu comprend nos souffrances, mais il nous aidera jamais à nourrir nos offenses, jamais. Et puis, alors, ensuite, ça ne suffit pas, ça. Il y a un moment où, et ça, c'est un moment de victoire, c'est quand on arrive d'une façon de plein cœur à bénir ceux qui nous ont offensés. Alors là, et ça prend du temps tout ça, c'est pas en un jour que tout peut se faire, mais commencer à bénir. Et là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de très fort dans la bénédiction. Et parfois, on a offensé des gens, mais on ne le sait pas. Et Dieu, vous savez ce qu'il nous demande, Dieu ? Il dit, si tu as offensé quelqu'un, c'est à toi d'aller le voir. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, le gars, il est offensé. Tu dis, quand même, je ne sais pas. Hein, c'est pas normal, il a qu'à se laisser offenser pour n'importe quoi. Mais Dieu dit, si quelqu'un est offensé, c'est à toi d'aller le voir. Parce que Dieu met la réconciliation au summum de son ministère. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Alors, voyez, qu'est-ce qui va nous pousser à la repentance ? Qu'est-ce qui nous pousse au pardon ? C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Et quand on est venu à la croix ce matin, on se rappelle cette bonté de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu pour nous qui fait qu'on peut libérer les autres. Il y a un tel amour pour nous qu'on peut libérer les autres. Donc on a besoin de la bonté de Dieu. Hein? Romains 2:4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance ? Ce n'est pas des gens qui nous disent « faut te repentir ». C'est la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu aujourd'hui, elle est pour chacun de nous. Et on veut simplement prier, prendre un temps par rapport à cette notion d'offense et se mettre devant Dieu simplement. Plusieurs m'ont dit dimanche dernier qu'ils ont été touchés, Dieu a pointé quelque chose dans leur vie. Et je sais qu'il y en a qui ont été en travail cette semaine et ça va continuer. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons devant toi. Nous te disons, viens avec la lumière de ta parole, toucher nos vies, nos souvenirs, nos relations. Et Seigneur, là où il y a offense, merci de pointer cela. Parce que nous voulons être une bonne terre, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons être une bonne terre, nous voulons porter des fruits, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des Absalom, offensés. On comprend, mais il a perdu son héritage. Seigneur, qu'au milieu de nous, aucune offense ne puisse nous arrêter. Seigneur, qu'aucune offense ne puisse nous empêcher de nous laisser planter bien profondément là où tu nous as mis, Seigneur. Merci d'ôté, nous acceptons que les murs de protection tombent et nous acceptons, Seigneur, le travail de ton esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous libérons les personnes qui nous ont fait du mal. Nous libérons les serviteurs de Dieu qui nous ont fait du mal. Nous libérons les responsables, les anciens, les pasteurs. Nous libérons les amis de la famille, les papas, les mamans. Nous libérons, Seigneur, les membres de nos familles spirituelles et charnelles. Seigneur, nous ne voulons pas retenir captif qui que ce soit. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui nous donne de le faire cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Jésus. Et apprends-nous en tant que corps à marcher en sachant traiter rapidement l'offense sans la nourrir, mais en nous dégageant des pièges de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite vraiment cette semaine à prendre au sérieux cette parole et à vraiment vous mettre devant Dieu par rapport à ça. Vous voyez ? En même temps, attention, on n'a pas à être accusé par l'ennemi, d'accord ? Quand l'ennemi pointe un truc, on ne tombe pas sous l'accusation. Hein ? C'est important ça. On dit, bon ben ok, il y a une offense, pardon Seigneur, je vais régler ça. Mais attention à ne pas rester dans une sorte d'accusation, de condamnation qui n'est pas juste, d'accord ? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Qui vous donne une bonne après-midi. Merci encore aux différentes équipes là qui ont travaillé. Je voulais remercier en particulier Christophe et Denis qui ont tenu la journée et Patrick aussi. Hein. Voilà. Et je sais pas. Je rappelle les matinées de travaux. Je crois que c'est le samedi matin.